And now we are getting out the racket of the house.
This is BBC Radio 1.
Good evening, I'm Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Bonsoir, Don Kent, I'm Don Kent.
I'm Anthony Joseph.
I'm Chewbacca Hutchings.
Ping pong. La culture sans limite. Ping pong.
Ce soir, Ping Pong partage les inquiétudes, l'effroi, mais aussi les espoirs des Britanniques avec une émission qui porte le regard et les oreilles vers le grand large et dans les recoins de leur maison commune.
Avec Don Kent, un enfant du rock, grand réalisateur musical, notamment de Chorus. C'est un des pères de la musique concrète, Pierre Schaeffer, qui lui a transmis son analyse du rapport entre le son et l'image. Et il la met de nouveau en pratique dans un excellent documentaire pour Arte, Goodbye Britain, avec à l'horizon le référendum du 24 juin. C'est coécrit avec Jean-Daniel Beauvallet des Inrecuptibles. Et c'est un aller-retour politique et culturel sur les enjeux de ce drame shakespearien, To leave or not to leave the European Union.
Et avec le poète, romancier et musicien Anthony Joseph, à la fois britannique et trinidadien, dont le nouvel album s'intitule Caribbean Roots, Racines caribéennes, et qui, après avoir proposé, exhibé ses racines en public aujourd'hui même au Festival de Jazz de la Défense, eh bien, nous offre de les goûter en direct, en musique, et avec ses mots, ce soir dans Ping Pong, vers 19h45 avec ses musiciens, et ce soir, information exclusive de Ping Pong en concert gratuit à 22h30 à la petite halle de la Villette à Paris, et il est avec nous en compagnie de son saxophoniste Chewbacca Hutchings.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong, c'est sur France Culture.
La Grande-Bretagne, quelques îles amarrées au large du continent européen. Les relations entre voisins n'ont pas toujours été des plus cordiales. Churchill a dit un jour à De Gaulle, « Entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. »
2016 will be the year we achieve something really vital, fundamentally changing the UK's relationship with the EU and finally addressing the concerns of the British people about our membership. Then it will be for the British people to decide whether we remain or leave.
Should I stay or should I go?
Oh, stay.
Stay.
Stay. Go.
Go.
Stay. Stay.
Pour ou contre le maintien du pays dans l'Union. Et jusqu'au bout, la campagne risque d'être mouvementée. Elle a même été interrompue hier après le meurtre d'une députée du Labour. Jo Cox a été tuée par balle dans l'après-midi à Birstall, près de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Réaction immédiate de son camp. Les pro-maintiens ont interrompu la campagne. Les pro-Brexit ont suivi.
Cette émission spéciale de Ping Pong, dans le cadre de cette journée spéciale de France Culture consacrée à la question du Brexit, ce référendum pour ou contre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, s'ouvre avec un montage réalisé par notre réalisateur Thomas Beau qui associe Don Kent à la fois votre voix, un peu de la bande-son, les clashs de votre documentaire Goodbye Britain, point d'interrogation, qui vient d'être diffusé sur Arte et qui est à redécouvrir sur Arte plus 7 hein, sur Internet en ligne. Libre accès, un montage donc d'extraits de votre documentaire avec les voix de passants qu'on entend dans la rue et qui répondent à la question rester ou quitter ou partir, avec aussi un extrait du journal de ce matin sur France Culture, le journal d'Amélie Perrier, qui nous parle de l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox et qui fait écho cet assassinat à un certain nombre de propos qu'on entend dans votre documentaire, quand notamment la journaliste Polly Toynbee parle de ce référendum comme une chose qui pourrait amener à détruire le pays, ce sont les mots qu'elle emploie. On entend aussi une passante que vous interviewez expliquer que pour elle, la construction européenne, c'est une façon d'arrêter de s'entretuer après des millénaires de guerre entre les Anglais, entre tous les habitants du Royaume-Uni et les habitants du continent. Est-ce qu'au fond, cette question du Brexit, à la lumière de ce fait divers tragique, ne se révèle pas, ne se dénude pas comme une question de pulsion de mort qui agiterait tout d'un coup la Grande-Bretagne, Don Kent?
Enfin, je pense que surtout ce que ça fait ressortir, c'est tout le côté un peu sombre qu'il y a sous cette question en Angleterre. C'est assez difficile d'en parler après ce qui s'était passé vraiment hier, parce que c'est vrai que ce film-là, je l'ai fait sur un ton un petit peu décalé. Donc, quand on entend des nouvelles telles qu'on a entendu là, que donc il s'agit donc de l'assassinat de cette femme qui était députée, qui était quelqu'un d'ailleurs qu'on avait essayé de contacter à un moment donné et qu'on n'a pas, parce que quand on fait un film comme ça, on a une liste de 100 personnes et puis vous le savez, on en arrive avec 10 ou 12 à la fin qui disent. Mais quand on en arrive à quelque chose comme ça, effectivement, ça fait ressortir. Ce que disait effectivement Pauli Thornby, ce que disait aussi le réalisateur Peter Kosminski dans le film, quand lui il dit que la plus grande crainte qu'il avait, c'est que justement le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Europe, quelque part, il n'a pas dit dans ces mots-là, mais qui déclenche des forces qui ont été peut-être maintenues comme ça, comment on pourrait dire, sous le boisseau depuis 70 ans, et cette... Je pense que ce qui s'est passé là en Angleterre, je pense que c'est plutôt un mec, je pense que c'était un fou, quoi. Je pense pas que ça soit le résultat d'un mouvement politique. Mais néanmoins, ça montre que, en dessous de tout ça, il y a des vieilles haines, il y a des peurs, il y a des choses comme ça qui étaient peut-être prêtes à recharger, à surgir. Et ce que dit Pauli Thornby est très juste.
C'est le journaliste que vous interviewez.
C'est le journaliste du Guardian, que dans un sens, Cameron n'avait absolument aucune raison de faire ce référendum en Angleterre. Et c'était quelque chose qui diffère uniquement pour des raisons politiques en Angleterre. Et ce faisant, il a peut-être effectivement ouvert un petit peu la boîte à Pandore. Et il y a des choses qui sont lâchées en Angleterre, peut-être jusqu'à ce point-là.
Britain first, hein, c'est ce qu'aurait crié quand même l'assassin de Joe Cox avant de la tuer. Cette jeune députée, elle défendait la diversité comme une fierté dans sa circonscription. Elle avait salué l'arrivée des catholiques irlandais, des musulmans d'Inde ou du Pakistan comme quelque chose de positif qui agrandit la communauté, qui enrichit la vie culturelle, la vie sociétale, la vie politique. Anthony Joseph, vous êtes poète, prêcheur musical, né à Trinidad, arrivé à Londres en 1989 avec le rêve de devenir Jimmy Hendrix, vous avez profité de ce bain culturel, on va dire, qu'est la ville de Londres, comme le souligne aussi l'un des intervenants du documentaire de Don Kent, hein, le chorégraphe Akram Khan. Comment est-ce que vous vivez un événement comme le meurtre de Joe Cox, ou on va dire la restriction du débat sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne autour de peur, notamment autour de l'immigration?
You know, I don't actually know enough about.
Alors, je ne sais pas suffisamment de choses sur l'assassinat de Joe Cox. Hein. On était en transit au moment où ça s'est produit hier. On arrivait à Paris. Évidemment, je trouve ça extrêmement choquant, hein. Parce qu'effectivement, en Grande-Bretagne, d'abord, on n'est pas habitué à des événements comme celui-ci. Il y a des endroits dans le monde où, malheureusement et tristement, des événements comme celui-ci sont beaucoup plus fréquents. Donc, des assassinats comme ça sont extrêmement choquants. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, ça a ouvert d'une certaine manière, hein, qui s'est ouvert là, un espace qui est comme une blessure ouverte. Il faut que je rentre à Londres, il faut que je me renseigne davantage sur ce qui s'est passé précisément. Mais si on parle effectivement du référendum proprement dit, c'est étrange pour moi parce que je viens de Trinidad. Je suis arrivée à Londres donc en 1989. Mais ce que j'ai pu voir, ce que je vois, c'est que la Grande-Bretagne a été changée par son adhésion à l'Union européenne. Vraiment. Et la Grande-Bretagne est devenue plus européenne qu'elle ne veut bien l'admettre. Le sentiment que j'ai, c'est que nous devons rester en Europe. C'est ce que je pense personnellement. Et effectivement, comme musicien, comme écrivain, je voyage dans toute l'Europe. Et je peux voir effectivement les liens que les gens ont les uns avec les autres. Je peux également sentir qu'il y a un certain sentiment commun sur l'Europe, même si on ne peut pas vraiment parler d'un sentiment d'unité. Et voilà, je pense qu'on devrait rester.
Shabba Hutchings, donc vous êtes aux côtés d'Anthony Joseph sur scène et vous êtes à ses côtés aussi autour de la table de ping-pong.
Vous êtes saxophone.
Saxophoniste, vous avez aussi des racines caribéennes du côté de la Barbade, je crois. Est-ce que vous avez le sentiment que cette question du référendum, du Brexit, de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a aussi rouvert des plaies, fait ressurgir des démons ?
Oui, je pense que c'est exactement ça. Il y a l'impression que récemment, on a eu une rhétorique de la haine et que les politiciens et les gens en général ont oublié que d'une certaine manière, on n'est pas totalement en dehors de l'histoire. Hein, et qu'effectivement, si on prend une certaine direction, on va reprendre une direction qu'on avait prise par le passé. Et on le voit là très tragiquement avec la mort de cette femme parlementaire. Mais j'espère que sa mort ne sera pas en vain et que, d'une certaine manière, ça montre bien que certains événements historiques vont se répéter si vous prêchez la haine et si vous n'expliquez pas la situation complexe telle qu'elle est. Vous aurez comme réponse la haine. Et par rapport, effectivement, au référendum, je pense qu'on doit rester en Europe parce que je crois que les gens, d'une certaine manière, ont tendance un peu à se référer à l'Europe comme un lieu non amical qui nous oblige à faire des choses. Mais d'une certaine manière, je crois que il y a des idées pour le commerce, pour la culture. Il y a tout un tas de raisons qui sont mises en avant par les partisans. Hein, mais d'une certaine manière, on fait partie de l'Europe, même si effectivement on n'est pas différent de la France et de l'Allemagne, même si on a la manche entre les deux, cette étendue d'eau. Et d'une certaine manière, on est... Donc, il y a effectivement cette idée de l'Europe et on n'est pas si différent des autres États et on a bien vu effectivement tout ce que l'Europe a pu nous apporter dans un monde qui devient de plus en plus globalisé. Il faut effectivement qu'on soit assez nombreux. Il faut qu'on ait des organisations qui sont globales et qui agissent pour nous tous. Plutôt que des petites choses séparées.
Duncan, vous voulez réagir?
Je pense qu'effectivement, malheureusement, ce qui s'était passé là, c'est la preuve de quelque chose qui est dit dans le film. C'est que quand on ouvre la porte...
Dans votre film, Goodbye Britain, point d'interrogation.
In Goodbye Britain, il y a l'écrivaine pakistanaise qui est dans le film, qui dit, malheureusement, je ressens que ce qui se passe en ce moment, il y a une espèce de vent. Et c'est pas uniquement en Angleterre, c'est partout en Europe qui va vers l'extrême droite de l'échiquier politique. Et moi, j'ai très peur quand je commence à entendre reparler en France, quand j'entends les gens reparler des gens qui parlent d'identité nationale ou les gens qui parlent du peuple contre les élites. Ça me fait peur parce que ça fait partie de ce même vent. Et effectivement, comme ils viennent de dire comme ça, quand on commence à invoquer ces différences, c'est très la distance entre ça et le point de dire. Les responsables pour tous les problèmes, ce sont eux, les étrangers, les gens qui viennent d'ailleurs. C'est trop facile. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur.
On le voit bien dans votre documentaire, il y a un système un peu de double écran, c'est-à-dire que l'Union européenne devient un écran sur lequel on projette tous les fantasmes d'immigration, et donc ça devient un oui ou non à plus d'immigration, ce qui devient complètement absurde aussi.
Je pense que ça, c'est, on me demande souvent ce que j'en pense moi, les conclusions du film. Je pense que vraiment, une des conclusions du film, c'est que, et c'est dit par plusieurs personnes, ce qui va se passer le 23, quel que soit le résultat, ça risque de ne pas être le résultat de la raison, mais de l'irraison. C'est-à-dire que si vraiment les gens sont convaincus que le vrai sujet de ce référendum, c'est l'immigration, et ce que certains gens tentent de faire, eh bien ce sera perdu.
La peur fait chauffer l'ignorance qui distille la haine. Oui, c'est schéma qui est fait par un Espagnol dans une entreprise de la Silicon Valley anglaise, Brighton.
Voilà
Brighton. Très européenne.
Voilà. On a choisi cette entreprise parce que c'était assez typique de la coopération entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Et son patron parlait de ça. Effectivement, on est allé la voir. Il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols. Effectivement, en partant, cet Espagnol m'a donné il m'a dit ça, un schéma. Je m'attendais à voir un truc comme ça, mais sans le dessin qui était d'une limpidité, qui était très claire. Et je pense que voilà, ça résume tout pour moi, oui.
Anthony Joseph, il se trouve que dans le film que Don Kent vient de réaliser pour la télévision française et allemande, il est question de politique, il est question d'économie, de finance, il est assez peu question de religion. Or, vous avez une éducation religieuse et vous avez notamment assisté dans l'enfance, je crois, à des cérémonies d'exorcisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne a des choses qu'elle doit, qu'elle veut, ou que malgré elle, elle est en train d'exorciser ?
Should exercise. Oh gosh.
Mon
that's
Dieu.
A hard question.
Alors, c'est une question difficile.
I think we yes, you know, of course. I think there's
je dirais oui, évidemment.
But I also think that we have to be careful
mais
and not
je pense aussi qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on n'ait pas une vision étroite de l'histoire. Le moment présent, ce qu'on vit actuellement, ce qu'on traverse, c'est seulement une toute petite partie, effectivement, d'un énorme champ d'événements et dans l'histoire. Et tout va passer, tout va changer. On est dans cette évolution perpétuelle, c'est ça l'histoire. Et donc, dire quelque chose, que quelque chose est diabolique, dire que ça a besoin d'être exorcisé est un peu fort, je crois. On évolue tout le temps, politiquement, culturellement, socialement. Et j'espère... J'ai l'espoir que les choses vont devenir meilleures.
Et Anthony Joseph, vous associez dans votre travail, dans votre démarche esthétique, les choses, vous procédez par collage, par superposition. Il y a dans cet album Caribbean Roots une créolitude, une créolité revendiquée du mix, du mélange. Donc justement, est-ce que c'est pas un petit peu ça que vous essayez de désigner comme direction, plus qu'effectivement cette classification qu'on voit opérer en ce moment en Grande-Bretagne ?
You tell us to follow, sort of merge and mix things.
Oh, the Caribbean is a very curious region.
Alors, les Caraïbes sont une région curieuse. Effectivement, ça a à voir avec la créolité, avec le mélange. Et dans donc Caribbean Roots, qui est une chanson qui donne son titre à l'album, ce que je dis vraiment, c'est que ce n'est pas une philosophie panafricaine ou pan-carabienne. Ça parle davantage de l'histoire et également des racines et du fait que nous, les Caribéens, nous avons le sentiment que notre histoire existe ailleurs et que nous sommes des personnes transplantées et qu'à cause de ça, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir politique sur la scène internationale. Voilà. Et que, comme pour l'avoir, certains pays en voie de développement, nous, on est en développement constant, je dirais. Et mon idée, je ne crois pas qu'elle soit nouvelle, c'est de dire que prenons comme point de départ, en fait, ses racines et à partir de là, allons plus loin.
You had a powerful peace. Such a powerful peace.
Powerful Peace, cet extrait de Caribbean Roots, apparaître la semaine prochaine en France, signé Anthony Joseph. C'est votre album le plus caribéen. Pourquoi ? Et entre autres, peut-être aussi est-ce dû à la présence un peu plus forte sur cet album du steel pan, qui est une percussion typique caribéenne qu'on a entendu un petit peu.
Yeah, I mean, it's... I don't know if it's the most Caribbean
oui.
album.
Alors je sais pas si c'est mon album le plus caribéen. Moi je suis un homme des Caraïbes, donc tout ce que je fais a une essence caribéenne. Mais je crois que c'est l'album où effectivement j'ai choisi une approche avec un angle caribéen. Voilà, faire une musique qui était inscrite et ancrée dans cette région.
I mean, for me, the whole point of it, the whole idea behind it,
pour moi, l'idée derrière cette idée de ces racines caribéennes et de trouver un chemin là-dedans, hein, c'est venu de recherches que j'avais faites et que j'avais faites pour mon doctorat, en fait. Hein. Je regardais à la notion, en fait, de fragmentation que beaucoup d'universitaires, donc occidentaux, ont utilisé pour parler des Caraïbes, hein, différentes langues, différentes îles, différentes cultures. Et puis, c'est effectivement une voie que j'ai choisie. Et puis, je me suis dit, tout d'un coup, ça ne marche pas. J'ai lu beaucoup de poètes, notamment comme Derek Walcott. J'ai lu beaucoup d'ouvrages écrits par des érudits des Caribéens. Et donc, ils avaient cette idée, hein, comme ça, d'une région qui, effectivement, avait bien une unité sur un certain nombre de bases. Donc, le disque, finalement, c'était un effort de manifester, en fait, hein, cette idée d'ensemble, cette idée d'intégrité, en fait. Et dans la musique, bien sûr, on utilise des stilpan, mais avec la gorka, on a des goka avec le vaudou qui vient d'Haïti. On a la calypso, on a d'autres rythmes de Jamaïque, et tout ça, quelquefois, dans la même chanson. Donc, en fait, il s'agit vraiment de faire venir toutes ces musiques, mais plus encore de rassembler les musiciens et les faire créer donc un son particulier.
Oui, au sein de cet album en particulier, il y a tous ces rythmes réunis. Shabaka Hutchings, vous êtes associé à cet album en qualité de saxophoniste, donc vous jouez un instrument occidental, s'il en est, au milieu de ces percussions, notamment caribéennes. Tous ces rythmes, il y a ces rythmes caribéens, et puis l'Angleterre, la Grande-Bretagne, ce sont aussi des rythmes singuliers. On entendait les clashs au début de cette émission, le rythme du punk, le rythme du ska. J'aimerais savoir, avec vos oreilles de musicien, à votre sens, à quel rythme bat aujourd'hui la société anglaise? Vous la sentez créolisée, caraïbéenne, chaloupée, ou vous la sentez au contraire très rythmée, voire brutale, comme le rythme d'un ska ou les rythmes entraînants que vous pouvez voir de trance, que vous pouvez élaborer avec vos autres orchestres?
Could actually play on with the other orchestra.
I guess the first point to make in this.
Alors, je crois que la première chose qu'on doit dire d'abord, c'est que la Grande-Bretagne, c'est la Grande-Bretagne, mais moi, je vis à Londres, donc c'est un écosystème très, très différent au niveau du son. Et je pense que le son de Londres, actuellement, c'est le son d'entité musicale qu'on a du mal à définir. Et beaucoup des musiques n'ont pas de nom particulier. On est vraiment sur des cultures qui se mêlent. Et j'ai le sentiment que cette idée, en fait, hein, de labelliser cette idée de musique est peut-être quelque chose d'un peu vieux. Voilà, je crois que effectivement, là, à Londres, on est sur une musique qui n'est pas labellisable. C'est la musique. Hein. On a des gens qui ont des influences jazz, mais qui peut-être vont aller vers le côté de la trance. Il y a d'autres musiciens qui sont plutôt vers le punk, mais qui vont utiliser des instruments traditionnels. Moi, je viens des Caraïbes et pour moi, c'est extrêmement excitant de me retrouver plongée dans tout ça et qui vous fait sentir ce que sont les Caraïbes, hein, comme Anthony vient de le dire. Et je suis des Caraïbes, donc ce que je fais, c'est de la musique des Caraïbes. Et sans regarder donc à cette définition, sans essayer de trouver en fait des notions de qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on est des gens qui venons d'une région particulière.
Nick Kent, vous, le réalisateur musical, entre autres, de Chorus, je le rappelais, émission mythique, vous avez un regard sur le son de Londres.
Juste, ce qui vient de dire, c'est très juste, Britain n'est pas Londres. Londres n'est pas Britain. Par exemple, avec l'histoire du Brexit, Londres un bas de 90% pour rester. Londres n'est pas le reste du pays.
Il n'est pas le Sussex en particulier, il n'est pas Liverpool oui. où vous allez, alors, à Bradford.
Effectivement, où là, bon, pour parler aussi de tous les autres.
Oui, il y a une division nord-sud qui est très marquée.
Il y a cette division nord-sud qui est marquée, et bon, ben ça, on va rentrer, c'est assez complexe pour les histoires du vote comme ça des gens. Mais ce que je voulais dire, c'est effectivement Londres, c'est l'exemple même de ce mélange, et la musique a toujours été l'exemple parfait de ce mélange-là. Par exemple, moi, je me rappelle un jour, là, au tout début de Clash, Joe Strummer a dit à un journaliste qui lui pose des questions, il a dit « Just listen to reggae ». Ça, c'était dans les années 70.
La basse, donc, elle est reggae, la basse
donc
de Clash.
Oui, ouais, enfin, ce que faisait la pause, oui, c'est vrai. Mais donc, ce mélange-là, la musique a toujours été à l'avant-garde de ce mélange des gens et des peuples. Et c'est pour ça que la présence est si forte, ça, en Angleterre. C'est pour ça que, pour moi, c'était important de mettre un musicien dans le film, comme le jeune mec là de Fat White Family, qu'on dit, c'est le Clash d'aujourd'hui. Mais eux aussi, ce mélange, le métissage, qu'on retrouve dans la musique, est l'exemple même, à mon avis, de l'avenir. D'un sens, je pense que l'avenir vers le métissage. C'est pour ça que moi, je suis terrifié par tous ces espèces de réactions de Little England, le truc de construire des murs autour des pays comme ça. Je pense que c'est aller à contre la direction de l'histoire. Et c'est ça qui m'a rendu un peu triste quand je lis de plus en plus, là, hier, que le pro-Brexit commence à prendre le dessus dans les sondages. Ça me fait vraiment peur. Parce que j'ai l'impression que ça sert vraiment un saut dans le passé.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime faire des sauts dans l'avenir.
Comment le Summer of Love est devenu un Winter of Discontent? On en reparlera avec notre invité Don Kent et nos invités Anthony Joseph et Shabaka Hutchings pour parler aussi du rôle de la musique pour raconter l'histoire avec un grand H.
Et tout de suite, avant que peut-être la Grande-Bretagne ne prenne le large, on va prendre le large, mais encore plus loin avec le Journal de la Culture de Zoé Svez. Good evening, Zoé.
Good evening.
Good evening, Zoé.
Good evening, ladies and gentlemen.
Ce soir, Zoé, vous consacrez votre dossier à une grande avancée archéologique dans la compréhension de la civilisation khmère au Cambodge, dont on ne connaît pas grand-chose, à l'exception notable de ses vestiges religieux, à savoir le spectaculaire et complexe temple d'Angkor. Grâce à une nouvelle technologie, le LIDAR, une équipe de scientifiques a réussi à percevoir les traces d'une ville disparue dans cet empire. Des résultats époustouflants présentés cette semaine à Londres.
Et oui, il y a un petit lien quand même, il est maigre, mais quand même. Tout le monde connaît le site d'Angkor, vous l'avez vu au moins dans des films. C'est avec son grand temple Angkor Wat, complexe religieux de 400 km², donc l'un des plus importants du monde. Ce sont les vestiges, en tout cas, Angkor et ses temples, du flamboyant empire khmer qui est né, on pense, à peu près au 9e siècle et qui a disparu au 15e siècle. Complexe, en fait, une civilisation dont on ne sait presque rien, à part qu'il a conservé ses temples, parce qu'il a disparu, pour des raisons qui restent encore aujourd'hui assez obscures. Très difficile de travailler sur cet empire, parce que si les temples ont été construits en matériaux durables, donc pierre et briques, on sait que les villes, les palais, comme les petites huttes, étaient toutes construites en bois, qu'ils n'ont donc, après l'abandon de toutes ces villes, qu'ils n'ont pas résisté ni au ravage du temps, surtout du climat et de la grande végétation tropicale qui a littéralement envahi le site, par ailleurs très difficilement accessible pour des raisons politiques et de sécurité au cours du XXe siècle. Jusque-là, les archéologues travaillaient à partir de photos aériennes, grande révolution, GPS, mais surtout à partir de relevés au sol extrêmement, extrêmement fastidieux et longs. Et puis est arrivé le LIDAR, technologie de rayons à haute fréquence, qui, une fois qu'on l'héliporte, permet de relever des millions de points en 3D avec une précision de quelques centimètres. Il a fait ses preuves pour scanner la jungle, notamment en Mésoamérique, où il a permis de mettre au jour des cités incas disparues. J'en avais parlé l'année dernière dans le Journal de la Culture. L'idée de l'utiliser au Cambodge a germé en 2013 dans l'esprit d'un chercheur français. Sa première campagne a été très fructueuse. Elle a montré la nécessité d'en monter une deuxième, plus poussée. Et ce sont donc les résultats de cette campagne, financée par la Commission européenne et coordonnée par l'École française d'Extrême-Orient, l'EFEO, et l'autorité nationale cambodgienne APSPARA, qui ont été présentés donc à Londres. Christophe Petit est archéologue à l'EFEO. Il travaille depuis 2 ans sur cette campagne et explique l'enjeu phénoménal de cette nouvelle technologie.
depuis que l'Occident a redécouvert encore, comprendre encore, ça a toujours aussi été une question de le cartographier. C'est terra incognita au milieu de la forêt il y a un siècle et demi. Et au fur et à mesure, et notamment au XXe siècle, l'un des travaux principaux sera justement de cartographier les différents temples, les différents sites archéologiques. On était limité, encore il y a peu de temps, par les zones sous couvert forestier dense. Ce premier test a montré à quel point effectivement la technique était adaptée pour le site d'Angkor, en confirmant non seulement des travaux précédents, des travaux très lents, très fastidieux de relever au sol, etc. Et bien là, quasiment du jour au lendemain, le LIDAR fournissait un relevé topographique de cette zone, d'autant plus que ça révélait, à proximité même des monuments quasiment les plus visités, l'existence de structures, de mouvements de sol, des alignements, des tertres, sous la forêt, et qu'on n'avait jamais vu, alors que passer dessus quasiment tous les jours sans les voir, tout simplement parce que sous la forêt, effectivement, on n'a pas ce type de visibilité sur des grandes zones.
Et ces découvertes topographiques, car c'est bien de cela qu'il s'agit, Zoé, bouleversent profondément la vision que l'on avait jusque-là de la civilisation Khmer et de ses cités.
Oui, en fait, elle révèle une civilisation d'une ampleur absolument insoupçonnée. Je vous invite à aller regarder les images qui vont être disponibles sur le site du Journal de la Culture dans quelques heures, et puis sur celui de l'EFEO, l'École Française d'Extrême-Orient. C'est absolument fascinant, on voit clairement des villes. Les temples, en fait, ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg. C'était ça un peu l'interrogation qu'on avait sur la civilisation cambodgienne, l'ampleur des villes qu'on voit apparaître comme en négatif grâce aux traces qu'elles ont laissées dans la terre, les routes, les soubassements, est absolument phénoménal autour des temples d'Angkor, mais aussi sur d'autres sites qui furent par exemple les capitales de l'Empire après ou avant Angkor. Cette campagne a permis notamment de mettre au jour Mahendraprabhata, qui date du 9e siècle, qui est l'une des premières capitales de cet empire, fondée par le roi Jayavarman II. Pour Christophe Potier, les images que révèle le LIDAR démontrent en tout cas beaucoup d'idées reçues sur cette civilisation.
On en avait déjà une idée assez bonne avec la monumentalité des temples. Mais les temples ne sont que des temples. C'est pas parce que vous avez une grosse cathédrale au milieu de la campagne que vous avez une ville de 200 km² à côté. Eh bien là, les relevés que permet le LIDAR nous montrent en tout cas les traces des installations, des routes, des chaussées, des terre-pleins d'habitats et des bassins qui témoignent donc d'une densité qu'on n'estimait pas être aussi importante, hein, je vous avoue. Les grandes enceintes de temples, ne serait-ce qu'à Angkor Wat par exemple, bon, on se disait il y avait probablement quelques milliers de prêtres qui pouvaient y rester. En fait, le LIDAR a montré l'existence d'une structuration de cet espace avec quasiment des îlots urbains. Donc, que le LIDAR montre des choses, on va dire, qu'on connaît déjà, un bassin, un terre-plein d'habitat. Mais par contre, ça montre aussi de nouveaux objets, des champs de bosse, des grands alignements, de grands terres, dont pour l'instant, on est bien en peine de trouver une interprétation. Comment comprendre une ville dont on ne garde que les églises? Eh bien, dorénavant, on commence à avoir les traces d'autres choses. Et ça, c'est assez passionnant.
Voilà, alors la campagne continue. L'enjeu, évidemment, maintenant, c'est d'aller voir au sol, puisque tout ce qu'on a, c'est des photographies donc, qui viennent d'en haut, pour tenter de comprendre, d'analyser ces données topographiques, essayer d'évaluer combien de gens ont vécu là, pendant combien de temps, comment s'organiser la vie sous l'Empire Khmer, et surtout, pour quelles raisons ces sites si urbanisés, si aboutis, ont fini un jour par être totalement délaissés.
Tout de suite, on passe au bref. Zoé, et vous suivez depuis le début de l'année dans le Journal de la Culture un dossier.
Un dossier pénible, mais qu'il arrive enfin
à sa conclusion.
Tout à fait, la loi création, patrimoine, architecture, cette fameuse loi dont je vous ai rebattu les oreilles, celle qu'on a appelée la super loi de la culture, la loi Macron de la culture, qui s'appelait Pellerin, qui s'appellera maintenant désormais loi Azoulay. L'Assemblée et le Sénat, qui n'étaient pas d'accord sur toute une série d'articles, ont fini enfin par trouver une version commune finale du texte hier, à l'issue d'une longue réunion de la commission mixte paritaire qui regroupe les sénateurs et les députés. L'un des derniers articles qui faisait débat avait attrait à l'architecture et finalement, eh bien, la loi inclura ce fameux recours systématique aux architectes pour la réalisation de l'ossissement. La profession a salué une réelle avancée.
L'association des amis de Maurice Ravel a lancé une pétition pour le retour de tous les documents et biens disparus du compositeur au sein des archives françaises.
Oui, et ce alors qu'une vente aux enchères avait lieu cet après-midi. La maison Halle à l'hôtel Ambassador organisait cette vente de documents avec des lettres, des partitions de Ravel, avec une pièce maîtresse qui est un manuscrit du début du Boléro estimé entre 20 et 25 000 euros. L'association des amis de Maurice Ravel, eux, se sont fondés face au triste constat du désintérêt général quant à la tenue d'une commémoration de la mort de Maurice Ravel, puisque je rappelle que les pièces du compositeur ont été éparpillées après la mort de son seul héritier, Édouard Ravel, qui avait légué tous ses biens à un couple, les Tavernes, qui avait dispersé son héritage.
Franck Dubosc s'excuse après des propos jugés blessants sur le Maroc.
Déçu par l'interdiction aux moins de 16 ans de Camping 3, son bébé, film où il est à l'affiche, et par les réactions des spectateurs marocains lors de l'avant-première du film à Marrakech qui avait quitté la salle. L'acteur a accusé le Maroc d'avoir, je cite, 10 ans de retard culturel. Après avoir récolté des réactions outrées sur Twitter, il s'est excusé. Je n'en pense pas un mot, bien sûr, ce sont les dires d'un homme blessé et déçu de voir son nouveau bébé interdit aux enfants dans un pays qui m'a si souvent accueilli. Polémique qui intervient après, on le rappelle, la censure évidemment du film Lot Much Love dont on parlait hier avec Loubna Abidar.
Merci Zoé.
Ping pong. La culture sans limite.
This, ladies and gentlemen, is London. Swinging London, it's been called, though some people might find a different adjective. Social rebels have taken over in what seems more like an invasion than a revolution, because they've got their own new language that is way out and weird, to say the least.
Ces rebelles sociaux ont un langage, un encoutrement qui est plus que bizarre. Duncan, vous êtes d'accord avec cette traduction ?
La traduction est bonne.
Nous sommes en 1967 dans le Swinging London. C'est une année qui est présente aussi dans votre documentaire Goodbye Britain, point d'interrogation. Vous interrogez le Summer of Love qui va devenir ce que vous appelez le Winter of Discontent en reprenant cette formule de Shakespeare dans Richard III. Vous avez tenu à mêler la musique, celle des années 60, des années 70 et aussi actuelle, comme vous le disiez, avec le groupe de Fat White Family. Pourquoi est-ce que voilà, c'était important de tresser la musique dans ce récit aller-retour où vous refaites en fait l'histoire d'amour et de désamour entre la Grande-Bretagne et l'Europe ?
Deux raisons. La première raison, c'est que je me suis dit que pour faire un film comme ça, il fallait trouver une structure qui aiderait les gens à piger un peu tout ce qui se passait, parce que c'est un truc assez complexe, finalement, toute cette histoire. Donc l'idée, c'était de faire une sorte de timeline en prenant les points importants de la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Donc j'ai choisi de commencer avec 57, avec le traité de Rome, les deux refus des généraux de Gaulle en 63 et 67.
C'est ça le Winter of Discontent, c'est quand
donc,
de Gaulle
c'était la deuxième fois, là, ça c'est le deuxième nom de général, et ainsi de suite, 73, 75, et aujourd'hui. Et ce que je voulais faire avec le film, c'était... Et ça se voit, par exemple, je voulais pas seulement voir des économistes, des historiens, mais je voulais évoquer un petit peu ce que les gens vivaient à ce moment-là. Donc plutôt d'avoir quelque chose qui soit dit, j'ai souvent l'impression quand je vois des documentaires à la télévision que quelqu'un a écrit un roman avant et puis on a collé des images dessus. Non, moi je pense qu'un film est quelque chose d'organique qui se crée pendant qu'on tourne. Et pour moi, c'était important de raconter une histoire avec des images et des sons. Et donc, il y avait des images de la vie des gens de l'époque. Et ce qui m'intéressait, c'était ce que les gens écoutaient à l'époque, ce que les gens allaient voir au cinéma, pour essayer d'évoquer la totalité de ce moment où, effectivement, il y a un phénomène qui est le nom de Général de Gaulle pour la deuxième fois, et le fait que ça soit pendant cette fameuse l'été de l'amour en 67 en Angleterre, que j'ai traité avec un petit peu d'ironie, l'ayant vécu moi-même, donc...
Mais précisément, Duncan, si on regarde et on écoute votre documentaire Goodbye Britain avec les oreilles, à l'aune de sa bande-son, ça commence avec les Clash, Should I Stay or Should I Go, cette irrésolution des Britanniques quant à la sortie de leur nation, de leur pays, de l'Union Européenne, et puis on va jusqu'au Summer of Love, et puis il y a les Beatles avec All You Need Is Love. Au fond, est-ce que cette question du référendum, du Brexit, c'est pas une question d'amour, d'un besoin d'amour que réclameraient les Britanniques, une question de politique sentimentale.
Je crois qu'il y a des sentiments un peu comme ça qui ont été exprimés par l'historien au début. C'est qu'à la fois, les Anglais s'en sentent toujours un petit peu à part. Comme il a très bien dit, l'Angleterre, c'est une île, c'est pas le continent, donc il y a un petit peu ce côté-là. Et les Anglais se sentent aussi toujours un petit peu grugés par les gens sur le continent. Donc il y a toujours cette espèce de, peut-être ce rapport love-hate, cette espèce de truc...
Mais au sein de la société britannique, aujourd'hui, alors que les écarts de richesse sont si intenses, vous le rappelez dès le début du documentaire, des écarts de richesse extrêmes...
Mais ça dépend qui. On est en train de parler... Il y a vraiment deux Angleterres. Il y a Londres et le sud-est, et puis il y a le reste du pays.
Mais justement, il y a des agriculteurs, il y a des ouvriers, il y a un sentiment d'être mal aimé.
C'est plus complexe parce qu'on a justement, là, quand on est parti avec Jean Daniel faire l'interview.
Jean Daniel Beauvallet qui travaille aux Arts Occuptibles.
Jean Daniel Beauvallet, il y a cette espèce de notion archétype là, de l'agriculteur britannique férocement contre la communauté européenne. Mais là, les deux disent clairement. Sans les subventions, il n'existerait pas.
Les deux agriculteurs que vous interviewez, que vous rencontrez, dans sont saisissants. Ouais.
Donc il y a aussi et c'est ça, je crois que c'est quelque chose qui est exprimé aussi par l'économiste là, de London School of Economics. Il y a toujours cette ambiguïté entre souveraineté et entre ce que l'Angleterre donne à l'Europe et ce qui est pris par l'Europe, par l'Angleterre. Donc notamment cette idée de souveraineté qui est donc après tout quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'illogique. Comme dit Paulie Toynbee, le journaliste dans le film, là, c'est des gens qui vivent sur l'Angleterre de l'époque de l'Empire, qui n'existe plus.
L'Empire où le soleil ne se couchait jamais, hein. C'était ça le grand
rêve. Colorié en rose sur les cartes.
Non, c'est pas ça que j'en ai parlé, parce que c'était... Je sentais, d'après tout ce que les gens nous disaient, que l'immigration, la notion de l'immigration, allait être un point très important.
Alors,
dans ce référendum.
Mais oui, on en a parlé tout à l'heure et c'est vrai, enfin, on invite tout le monde à voir votre film sur Arte Plus 7 parce que je crois que l'articulation des problématiques posées, de la façon dont ça s'est resserré autour de ce thème-là, est très clairement posée.
Et en plus, c'est un thème qui est très complexe que moi j'essaie d'expliquer. Il y avait trois sortes d'immigration. Hein. L'immigration historique, comme celle des ex-colonies, l'immigration de l'Europe de l'Est et puis l'immigration maintenant avec les guerres en Syrie, en Irak.
Alors, Anthony Joseph, puisqu'on était tout à l'heure dans le roman que Duncan n'a pas voulu écrire avant de faire son documentaire. Vous, justement, en faisant Caribbean Roots, cet album qui sort l'année prochaine, vous avez fait un roman musical, pour le coup. Parce que ce récit de ses racines caribéennes, il prend tout un tas de formes littéraires. Je rappelle, vous êtes également poète et romancier, et déjà poète et romancier avant de faire de la musique. Il y a un tableau d'un insoumis dans la chanson Neckbone. Il y a le portrait d'un désespéré avec Jimmy Up on the Bridge. Drum Song, c'est un peu des contes et légendes aussi, du rythme, du rapport au rythme et à la terre. Il y a évidemment aussi des allusions à votre père, qui était prêcheur baptiste du côté de Trinidad. Donc comment est-ce que vous avez fait finalement ce roman caribéen en musique?
Well, I'm a poet first, before anything else.
Non, d'abord, je suis un poète, avant quoi que ce soit d'autre.
And this work, a lot of the work in the album is from a
beaucoup du travail de l'album vient d'un roman que j'ai écrit l'année dernière.
Interested in this idea that was put forward by the Trinidadian novelist.
Ellie Lovelace avait mis cette idée en avant, en fait, et il parlait de la simultanéité de l'expérience simultanée et comment, en fait, dans l'Ouest, le récit était quelque chose qui se faisait de manière linéaire avec des causes et des effets. Voilà, qui se succèdent. Hein, et voilà, et c'est comme ça que l'intrigue est construite dans les romans occidentaux. Et lui disait que dans les Caraïbes, tout se passe d'un seul coup, en fait. Vous avez le sentiment que tout se passe autour de vous en même temps. Et c'est vrai, si vous étiez caribéen, vous comprendriez tout à fait ce que je veux dire. Hein. Et il y a ce sens d'expérience simultanée. Et donc, j'essayais dans beaucoup des paroles, des chansons, de saisir cette idée-là. Je ne sais pas si j'ai réussi pleinement, mais en tout cas, c'était une des tendances que je poursuivais. après. Mais une des chansons, comme Jimmy, a été écrit comme ça, en fait. Hein, le refrain est écrit comme ça. Et je viens, en fait, d'une tradition d'oralité, hein, voilà, d'histoires qui sont racontées. Et l'oralité, donc, est très importante. Et j'ai grandi avec l'oralité. C'est quelque chose qui est inscrit, je dirais, dans ma conscience littéraire. Mais c'est, voilà, ça prend très longtemps, en fait, à façonner. L'album a pris 2-3 ans. Voilà, c'est un album qui est très travaillé.
Et justement, quand vous parlez de cette simultanéité entre les sons et les rythmes, bah on va la découvrir avec votre groupe, justement, pour une interprétation d'un des titres de l'album. Ça s'appelle Slinger. Le clip existe aussi, hein. Il est sorti il y a peu de temps. On vous voit conduire une voiture et vous balader du côté de Trinidad. On va retrouver avec nous Shabaka Hutchings. Il y aura également Andrew John et puis David Oublitant, Christian Arcucci, ils sont tous installés. C'est un live donc, de cet album Caribbean Roots d'Anthony Joseph qui vous emmène du côté des Slingers. Installation, saxophone, guitare, basse, batterie.
Avant un concert gratuit ce soir à la petite halle de la Villette à 22h30.
À Paris.
Probably slinger. Cause if you know anything about jam, you know it better. So when a big fat man with gun in the hand, no more teeth woman, roll it back again. When a long stones man gun in the hand, they know how to jam, roll it back again. And if you know what it means to be free, you can't break fire. So when a buck teeth man, gun in the hand, or no breast woman, roll it back again. Yes, man. When a long stones man, gun in the hand, and jammed woman, roll it back again.
Anthony Joseph à l'instant en live, mais il n'est pas seul, il est accompagné de David Oloubitan à la batterie, Shabaka Hutchings qui était avec nous aussi autour de la table, qui est au saxophone, Christian Arcucci à la guitare, Anthony Joseph que vous avez entendu donc à la voix, et Andrew John à la basse. L'album Caribbean Roots, avec toutes les rythmiques caribéennes, cet album pan caribéen, ben il sortira le 24 juin prochain.
Ping pong. Should I stay or should I
go? It's a pity, but it's time to go.
C'est déjà fini. Merci beaucoup à toutes et tous, puisque nous étions accompagnés de Pascal Fougère à l'interprétation ce soir. Don Kent, merci. Anthony Joseph, thank you. Merci aussi à tous vos musiciens. Donc Anthony Joseph, cet album, c'est Caribbean Roots. Et vous serez en concert bientôt dans les festivals de notre été français, en particulier le 21 juillet à Junas, le 22 juillet à La Grasse et le 23 juillet à Biarritz. Et puis ce soir, vous êtes donc dans un concert exceptionnel. Il faut se faire passer le mot. Un concert gratuit à 22h30 à la petite halle de la Villette à Paris. Quant à vous, Don Kent, votre documentaire signé avec J.D. Beauvallet, Goodbye Britain, il faut le voir, le revoir et le re-revoir sur Arte plus 7.
Le ping-pong est une petite contrée radiophonique, eh bien, qui reçoit en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Alex Dong et Jacques Azuber. Et à l'interprétation simultanée, bravo à Pascal Fougère.
It seems, on dirait bien, Mathilde, que lundi, après avoir pris le grand large, ping-pong prenne la route.
Mais oui, Beat the Road Jack, c'est le nom de notre émission lundi en hommage à la Beat Generation et cette grande exposition qui s'ouvre au Centre Pompidou à Paris.